les Anglais de Hot Ship débarquent le mardi 16 mars 2010 au Bikini. Ces fous furieux pratiquant un électropop à l'ambiance minimaliste vont retourner le dance floor du Bikini le mardi 16 mars 2010 avec Peter Digital Orchestra en première partie. Hot Ship et Peter Digital Orchestra, c'est le mardi 16 mars 2010 au Bikini. Tous les renseignements sur www.bikini.com.
Radio FMR 89.1.
Chip, à être monstrueux. Excusez-moi, un petit peu de sérieux, donc il faut que ce soit moi qui fasse la voix groovy, sexy, légèrement fipienne du Announcer of Continuity, c'est-à-dire celui qui va vous annoncer le programme et aussi donc vous annoncer la fréquence sur laquelle je suis. Donc, on se place bien, on fait sa petite voix et tout le reste, on met un petit cadre musical sympa derrière, on prépare à lancer le jingle de l'ouverture et tout le reste, et on y va parce qu'il est pile midi. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 13 mars 2010. Nos programmes pour cet après-midi: à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farah, et à 17h, Radio FMR, c'est de l'antenne à Booster FM, du moins sur les 89,1 MHz en modulation de fréquence sur la région de Toulouse, et continue sa programmation sur www.radio-fmr.net sur le streaming. Mais dans les médias, voici de l'appel au financement du public que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Donc j'ai un message de Nicolas de Prater qui que nous avions reçu dans l'émission en direct cette année d'Angoulême, et qui te remercie du sport car à cause de toi il s'est acheté l'intégrale de The Boys.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Et sans JB, ce qui reste un gag continuel, mais surtout sans Thomas cette semaine, qui a décidé d'aller profiter, qui a eu de la neige à Toulouse, pour monter dans les Pyrénées, pour tenter de se recasser une patte sur les pistes de ski. On verra ça, bien évidemment. Pour nos amis donc qui nous écoutent en Belgique, dans le nord de la France, voire un peu partout dans le monde, je tiens à signaler que les trois prochaines minutes sont consacrées au programme de l'après-midi sur la région de Toulouse. Donc n'hésitez pas à avancer, vous avez la chance de ne pas nous écouter en direct, à avancer directement à ce qui vous intéressera, c'est-à-dire le crowdfunding avec l'interview de Sandaway. Mais en attendant, eh ben, qu'est-ce qui se passe à Toulouse cet après-midi d'intéressant et de choses que l'on peut faire? Eh ben, figurez-vous que si vous êtes sur le centre-ville de Toulouse, pas très loin de la halle au grain, c'est-à-dire proche du canal, c'est les rendez-vous de la bande dessinée Alan 7. Et si je me trompe, je ne sais plus exactement, je crois que c'est la 7e ou 8e édition. C'est tout à l'heure, à partir de 14h, c'est au foyer des étudiants de l'AN7, qui est une école d'ingénieurs. Donc l'accès est côté rue d'Aurillac, sachant que l'AN7 est en réfection, donc je sais plus comment c'est l'entrée, mais c'est une vieille porte cochère en brique du 18e, donc faut pas être intimidé, faut rentrer. De toute façon, si vous entendez du bruit et des relents de boissons alcoolisées, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur mon dédicace, Becca, le couple d'auteurs qui est derrière la série Les Rugbymen, qu'on avait reçu sur cette antenne. Wissengel, qui dessine les Elfées et l'Héritier des Étoiles avec Serge Carrère au scénario. Devig, qui, sur un scénario de Philippe Gueluc, parodie Tintin avec Scott Leblanc. Marc Guessant sera là pour le scénario qu'il a fait pour Ganit Jacoupi, Jour de Grâce. Ali Mahmoudi pour l'excellente trilogie Arabico, dont le premier tome s'appelle Liberté. On a dit beaucoup de bien en octobre dernier, parce que vraiment ça le mérite. C'est vraiment un très très beau livre. Paul Coué, qui est le dessinateur de L'Honneur des Tsarums, grosse bande dessinée irrévérencieuse envers le space opéra. Et vous pouvez relire notre chronique écrite sur le site de l'émission. Tony Valente pour Anna Hattori et les quatre princes de Ganaan, qui est scénarisé par Raphaël Drommel-Schlager. Excuse-moi pour la prononciation si tu nous écoutes. Eldon Guillermo, qui est l'un des fondateurs de Misma Edition, dans lequel il a édité Charles, et qui a sorti aussi à l'association Prelude to a Kiss, ainsi que le fanzine Vert Potame. C'est donc de tout à l'heure 14h jusqu'à 19h. À mon avis, ils vont pousser un peu jusqu'à 20h et au-delà, puisque je crois même qu'il y aura un concert. C'est donc cet après-midi au foyer de l'Enset. L'accès se fait par la rue d'Aurillac. C'est derrière le quartier, la halle au grain, à côté de la sécurité sociale à l'Enset. Plus d'informations, on a mis le lien, si je me trompe, dans le lien vers leur site. Non, je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part, mais vous l'avez... Si, il y est, pardon. Les rendez-vous BD de l'Enset édition 2010, vous allez sur supplementweekend.fr et vous allez dans nos chroniques, vous descendez un peu et vous tombez dessus, c'est parce que j'en avais parlé samedi dernier, voilà. Donc c'est juste avant l'émission de samedi dernier. Samedi prochain, à la librairie Terre de Légende, François Duprat viendra dédicacer vraiment en avant-première. Il y a du monde au Portillon, sa nouvelle BD qui sort aux éditions Carabas. Quand je dis que c'est en avant-première, c'est que tout simplement ce seront les 50 premiers exemplaires qui seront dédicacés tout chaud sortis de l'imprimeur, qui seront livrés à Terre de Légende. Donc samedi 20 mars avec François Duprat. C'est sur un scénario de Gilles Harris, dont Thomas a parlé, puisqu'il dessine pour les éditions Ankama, mais aussi parce que c'est un ancien chroniqueur de BD qui était sur la région de Toulouse. Il n'était pas sur FMR, il était sur Radio Campus dans ce qui était avant Caramel Mou, et que j'estime beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup justement par ses chroniques, et qui lui, quand il a dit « je vais faire carrière dans la bande dessinée, je vais commencer à scénariser et à dessiner », hop, j'arrête les chroniques. Voilà, peut-être qu'on aura la chance de le choper, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura le dessinateur François Duprat qui a pris la suite justement de Il y a du monde au Portillon. C'est aux éditions Carabas. C'est samedi prochain à partir de 15h à Terre de Légende. L'édition TGS Ohanami du Toulouse Game Show sera les 10 et 11 avril à la Beige Diagora. On en reparlera avec un programme très précis des festivités, de ce qu'il y a de prévu. C'est une édition qui est un peu plus concentrée, je veux dire, que ce qui se fait normalement en novembre. C'est-à-dire que c'est plus concentré d'abord, primo, autour de la culture japonaise, culture musicale, culture ludique, culture vidéoludique, culture aussi au sens large, puisqu'il y aura des démonstrations d'arts martiaux, d'écriture, de poterie, de cérémonie du thé et de plein d'autres choses. Donc on avait déjà une partie qui avait lieu au Toulouse Game Show, la Main Edition, et pendant le TGS Ohanami, on aura quelque chose, je veux dire, un peu plus pas vraiment ramassé, mais je veux dire un peu plus concentré. Donc ça sera l'occasion justement d'en reparler, et ça tombe bien puisque le samedi 10 avril sera peut-être la spéciale Japon annuelle du supplément week-end. Programme marronnier, je vais dire, que l'on fait pour la rentrée japonaise, qu'on fait tous les ans, moi personnellement depuis 12 ans déjà. Et 7 et 8 minutes et 9 mai, il y aura le salon de la BD de Toulouse. Je sais pas si ça s'appellera encore Quai des Bulles vu que ce sera à Place du Capitole, mais ça on en reparlera après. J'ai largement dépassé les 3 minutes promis, désolé pour ceux qui nous écoutent en différé ou qui ne sont pas sur la région de Toulouse. Alors rien que pour vous faire chier si vous n'êtes pas sur Toulouse et ou qui vous nous écoutez en différé, le programme musical de ce soir à Toulouse au Rex, du psyché folk rock avec Coming Soon en première partie, The Existentialist, The Existentialist, je vais y arriver. La power pop au Saint-Dessin avec Soma et Dunst. Au bikini, c'est le tremplin des musiques électroniques, les Discoveries avec Fuck Off, Icky, Diffusion, Asian Trash Boy, Dame C. Et en Visual G, Jockey, Human Beings, c'est interdit aux mineurs, à noter. Salle des fêtes de Ramonville, de Electro avec l'Artichaut Orchestra. Au pavillon sauvage du punk entrepreneurial, forcément avec Medef in the Babylon. Et le bruit qui court, au Pôle Asso, Dub Addict Sound System. Et puis oui, c'est vrai, on repassera à la bande annonce tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas. De Hot Ship et Peter Digital Orchestra, c'est la hot pop électronique au bikini avec du son 8 bits. Vraiment le vieux son qui tâche de la TB-303 et de la puce Yamaha qu'on mettait dans les Atari ST, et ça déchire tout. C'est vraiment une révélation anglaise. Depuis 3 ans, il cartonne là-bas et c'est gigantesque. Ça, vous en avez rien à foutre sinon. Allez, un petit peu de gentillesse. Avec tout à fait autre chose, puisque on va parler de crowdfunding. Alors le crowdfunding, crowd, full et funding, financement, c'est traduit dans la Wikipédia francophone par production communautaire ou production participative. Alors peut-être que l'exemple le plus connu, l'exemple récent le plus connu, c'est My Major Company, qui est un label qui justement finance des projets par appel du public, qui dit « Ah ben je mise sur tel artiste » ou « Je mise sur tel artiste ». Ça a lancé notamment Grégoire et Joyce Jonathan. Et au bout de 2 ans d'existence, My Major Company a publié en janvier dernier les premiers albums CD de ces artistes-là. Et aussi en diffusion électronique sur iTunes et les autres plateformes de distribution. Mais le crowdfunding n'est pas un concept qui est né d'hier grâce à Internet et aux micro-paiements, puisque par exemple, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais le Sacré Graal des Monty Python, leur premier long métrage qu'ils ont eux-mêmes réalisé, puisqu'il y en a eu un auparavant, mais ils n'étaient pas vraiment d'accord sur la manière de la réalisation, c'est un exemple qui est célèbre. Parce que malgré la célébrité télévisée des Monty Python, après 6 saisons, je crois, du Monty Python Circus Show, eh ben, ils n'arrivaient pas à financer leur propre film. Et ce fut grâce à des sympathisants comme les groupes Led Zeppelin ou les Pink Floyd qui financeront le projet Le Sacré Graal, donc leur premier film qu'ils ont fait. Concept qui a dû être lancé pour la vie de Brian, puisque c'est, je sais plus lequel des Beatles qui avait aidé au financement du sport vient d'arriver. Lui, il connaît beaucoup mieux que moi. Tu peux le dire dans le micro là.
George Harrison,
ouais. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est comme quoi je me trompais. Mais là aussi, c'était, je vais dire, autre chose. Bon, ça n'a pas empêché que Sacré Graal, vu le budget rikiki, ils ont été obligés de remplacer les chevaux par des noix de coco. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le concept de crowdfunding, sauf que là, c'était fait par des copains qui disent, bah oui, on veut le voir, le film, donc, qui finance. Mais là, ben, justement, là, le projet, c'est on montre un projet à un public tel que le reçoit un éditeur. C'est-à-dire que vous avez un synopsis, une présentation, ce qu'on appelle un pitch dans le cinéma, et vous avez à côté de cela ben, des planches, des essais, une présentation des auteurs qui est faite, et vous pouvez décider si oui ou non vous allez financer. On a parlé plus récemment d'un principe à peu près équivalent, je vais dire, au crowdfunding avec la chaîne No Life, sauf que là il s'agissait de financer la survie d'une chaîne entière qui était obligée de se passer par ce mode de financement là en attendant d'être prise en compte par les mesures d'audience et de commercialiser proprement ces espaces publicitaires. Mais là il s'agissait d'un abonnement, ce qui permettait à tout le monde de voir. Sandaway, là donc, c'est un financement de projet qui est fait par le public et qui va permettre la mise en vente de l'album de bande dessinée avec une édition limitée qui est réservée aux actionnaires pour faire le buzz. Sandaway derrière, il n'y a pas, c'est pas n'importe qui le lance, c'est pas un financier ou un babacool quelconque qui est derrière, loin de là. D'abord, vous avez découvert Lionel Francfort qui est en charge, qui est l'une des 3 têtes de Sandaway, mais il y a aussi Patrick Pinchard qui fut 2 fois rédacteur en chef de Spirou, je veux dire 2 fois sur de longues périodes. 4 ans et 2 ans si je me souviens bien, et qui fut aussi éditeur de collection chez Dupuis et surtout fondateur d'actuabd.com dont Thomas et moi participons, et Patrick Pinchard est resté, je vais dire, fondateur mais sans plus, donc c'est plutôt indépendant. Alors vous allez voir que dans l'interview, Sandawe est le nom d'une tribu d'Afrique de l'Est. Alors le choix de la marque surfe donc à la fois sur le côté humain, loin des grosses compagnies, et le côté tribal et prescripteur des communautés du web. C'est une démarche un peu similaire à la distribution Ubuntu de Linux. Ubuntu veut dire humain. Ce matin, Sandawe, c'est sandawe.com, et ben c'est 995 membres inscrits, 194 auteurs avec pour l'instant 9 projets qui ont été retenus, et surtout 36 560 euros qui ont été investis par les membres. Nous avons donc rencontré lors du festival d'Angoulême Lionel Francfort, donc qui est l'une des têtes éditrice de Sandawe.com, ainsi que les auteurs Eric Albert qui présente le projet Corpus Christi et Jean-Marc Allais pour Il Penelo. L'interview donc a été enregistrée à Angoulême lors du festival de la bande dessinée pour laquelle a été lancé justement Sandawe, donc projet tout neuf puisqu'il date de fin janvier dernier. Lionel Francfort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'éditeur. Non. Vous êtes l'opérateur. Non. Vous êtes actionnaire. Non. Vous êtes PDG. Vous êtes quoi dans Sandawe, je ne sais plus.
Alors Sandawe comme Zimbabwe. D'ailleurs, on parle d'une tribu qui vient de Tanzanie. Donc, on est quand même un petit peu dans un contexte africain. Et je suis cofondateur de cette nouvelle maison d'édition. Avec Patrick Pinchard, qui est une personnalité un peu plus connue que moi dans le monde de la bande dessinée, puisqu'il a été à deux reprises rédacteur en chef de Spirou, qu'il est aussi le fondateur et l'éditeur de Actua BD, et plein d'autres choses qu'il a fait dans le monde de la BD, et un troisième associé qui s'appelle Dimitri Perraudin, et qui lui est plutôt exclusivement en charge de l'informatique.
Et on aura une pensée d'ailleurs à Patrick Pinchard, l'inventeur du grand plat de 12 mètres de haut, qui se remet bien quand même, parce qu'il a pas, il a eu beaucoup de chance. Eric Albert, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc Allais, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes deux porteurs de projets justement de bandes dessinées que vous avez proposé à Sandawe. Vous avez déjà une expérience dans la bande dessinée de votre côté?
Non, moi c'est mon. J'ai une expérience en bande dessinée, mais c'est mon premier album en fait.
Moi, ce serait aussi mon premier album. Je commence parallèlement une bande dessinée chez Delcourt. J'ai déjà publié, mais en illustration.
Alors toi, tu dis que tu as eu une expérience en bande dessinée, mais c'est ton premier album. C'est en quoi consistait ton expérience auparavant?
Essentiellement, par exemple, j'ai suivi des cours par Atelier BD avec Eric Albert, qui était mon correcteur préféré. Et donc, j'ai pas commencé tout de suite à faire un album sans avoir de billes en fait, de connaissances en bande dessinée. C'est pour ça que je dis que je suis un débutant un peu expérimenté, voilà.
Sandawe, c'est ce que l'on appelle un éditeur en crowdfunding. Cela veut dire tout simplement que on fait appel au public pour financer des projets. Est-ce que justement c'est du communisme parce que les gens votent pour tel projet pour le lancer, ou est-ce que c'est du capitalisme pur et dur parce que ces internautes qui financent ces livres sont des actionnaires, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de bourse de Francfort?
Alors, je crois qu'on n'est ni en capitalisme ni en communisme, en tout cas que c'est pas un modèle qu'on oppose, on est dans la force du groupe, la force de la tribu. Donc on est dans la force. Est-ce qu'on va l'appeler capitalisme ou communisme? Je crois que les deux régimes, si on les prend, peuvent être tous les deux très forts et ils peuvent avoir aussi des belles faiblesses. Mais c'est surtout et avant tout une réponse à un problème. Le problème étant que sur les 4800 sorties par an de bandes dessinées francophones, énormément passent inaperçues. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on retient des bandes dessinées?
4800, il y a eu 3800 nouveautés, hein, si je me trompe.
3800 nouveautés, mais 4800 sorties. D'accord. Donc c'est quand même à chaque fois qu'on sort quelque chose du fond d'une bande de un intégral ou quelque chose comme ça, il y a quand même du tam-tam qui est fait autour, d'autant que les éditeurs classiques qui sortent leur fonds investissent même pas mal d'argent dans la promotion de cette sortie-là, parce qu'elle est beaucoup moins risquée, justement. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette sortie? On retient les blockbusters, les séries à succès, et ce qui ne comporte pas beaucoup de risques. Ce qui veut dire que des nouvelles œuvres, comme celles que portent Jean-Marc et Eric, aujourd'hui, dans les éditions classiques, seraient vouées à être une parmi des tas, et peut-être pas obligatoirement vues. Ou en tout cas, on n'attire pas beaucoup l'attention du public, des visiteurs et des clients des librairies.
Alors avant d'avoir les avis des deux auteurs, comment est-ce que ça a été difficile de convaincre les auteurs en général qui ont signé pour rompre un petit peu leurs habitudes avec l'édition classique?
Ça n'a pas été aussi difficile qu'on croyait, à savoir, on avait comme objectif, lors de l'ouverture de notre site, ouvrir un site, c'est un peu comme ouvrir un magasin. Il faut qu'on ait un joli magasin, mais qu'on ait quelque chose quand même dedans pour que les visiteurs y trouvent leur bonheur. Nous avons ouvert notre site, on avait comme objectif d'avoir un minimum de 3 projets présentés et un objectif de 5. On en a 9 aujourd'hui. Et on a ouvert le site avec 8 projets, pour des raisons techniques, le 9e n'est pas là, il y a même un 10e qui devrait être là normalement. Donc ça a été beaucoup moins difficile que prévu.
Et justement pour les auteurs, bon, vous êtes des exemples à part puisque ce sont vos premiers albums, qu'est-ce qui vous a justement convaincu de faire partie de l'aventure plutôt que faire appel à la filière classique des éditeurs? Alors peut-être que vous avez fait appel à d'autres éditeurs classiques, que ça n'a pas marché peut-être.
L'un n'empêche pas l'autre en ce qui me concerne, dans la mesure où, comme je vous dis, là je commence une bande dessinée chez Delcourt, qui n'est pas un petit éditeur. Il se trouve que François Magoval est un grand ami de Patrick Pinchard, et il se trouve que naturellement, amicalement, Patrick a fait appel à des gens qu'il connaît, c'est normal. Ils ont discuté, le concept a plu à Patrick bien entendu, mais aussi à François, et du coup François a montré des projets qu'il avait, dont un certain nombre qu'il avait avec moi. J'avais fait quelques planches sur un scénario de François, et ça a convenu à Patrick Pinchard, qui s'est dit, ben tiens, propose à Eric si cette aventure lui plairait. C'est une aventure, effectivement, c'est novateur, c'est intéressant, je ne vais pas dire que c'est un peu comme Canal Plus en France dans les années 80, mais c'est un peu dommage de ne pas tenter une expérience comme ça. Alors il se trouve que, je me répète, l'un n'empêche pas l'autre. On peut tenter une aventure éditoriale sur un nouveau concept, et puis on peut aussi être très content, ce que je suis, d'avoir un album chez un éditeur classique sur support papier pour l'instant.
Bah, en fait, moi, c'est un peu la même chose. L'un n'empêche pas l'autre, hein, l'édition classique, parce que moi, je fais aussi des essais en ce moment pour reprendre une série chez un éditeur classique. Donc voilà, je fais comme Eric. Et puis bah, en fait c'est aussi le côté, alors ça c'est plus venu peut-être de mon scénariste qui en ce moment est en train de discuter avec des crocodiles à Brisbane, hein, c'est un Vendéen un peu aventurier comme tous les scénaristes, et en fait c'est lui qui a en fait, je pense, en regardant sur internet détecté qu'il y allait avoir une nouvelle maison d'édition avec un concept nouveau qui allait se mettre en place. Et puis il m'a contacté en me disant bah, « qu'est-ce que tu en penses ?» On a un peu discuté, réfléchi, et puis moi j'ai pas de recul, hein, j'ai pas, je disais bah, « allons-y, qu'est-ce qu'on risque ? C'est nouveau ?» Visiblement, quand on discutait avec soit Patrick, soit Lionel, ils avaient l'air d'être convaincus, c'était quand même des gens qui... pour Patrick, était quand même assez connu dans la bande dessinée, avait quand même une carrière derrière eux. Donc c'est quand même le côté aventure, on se dit pourquoi pas. Et puis je dois dire que je suis pas déçu, parce que en fait ça marche, quoi, en fait, même mieux que moi je l'espérais au départ, quoi. Voilà.
C'est très important le contact humain qu'on a eu avec Patrick. Lionel, je ne le connaissais pas physiquement, je dirais, il y a encore une demi-heure. Donc j'ai pas eu de contact particulier avec lui, si ce n'est quelques mails inhérents au contrat. Mais j'ai eu Patrick Pinchard pendant une bonne heure au téléphone. C'est lui qui a appelé, heureusement, ça venait de Belgique. Et je crois que ça s'est très bien passé, en tout cas, de mon point de vue, du sien, je ne sais pas. Mais je sais que ce côté humain, justement, est important, parce qu'on rencontre suffisamment de gens qui sont désagréables comme dans toutes les professions. pour quand le concept est intéressant et qu'en plus on tombe sur des gens, comme disait Jean-Marc, des gens qui sont visiblement très motivés et en plus qui sont très sympathiques. Et je ne dis pas ça pour Lionel parce que je ne le connais pas suffisamment, mais même en une demi-heure il me paraît très sympathique, et je ne dis pas ça parce que c'est mon éditeur.
Pas encore.
Obligado, si le contrat est signé. Mais justement, il n'aurait pas été signé, j'aurais pu être obséquieux. Comme il est signé, je pourrais lui dire ouais, bon. Voilà, c'est tout. C'est que c'est quand même très important de pouvoir se permettre de travailler avec des gens qu'on apprécie. Voilà.
Sandawe, donc le but du jeu, c'est les internautes croient au projet, donc donnent une somme pour faire paraître l'album, pour financer sa production, et donc font à la fois la communication, si cet album est sorti et qu'il fonctionne, touchent aussi les subsides, les bénéfices de leur action. Combien à peu près d'internautes il faudrait pour sortir un projet? Comment ça marche exactement? Un internaute peut-il cumuler plusieurs parts? Quelle somme à peu près il doit mettre pour acheter une de ses parts?
Il y a énormément de liberté dans le système, à tout point de vue. Ça veut dire que, en effet, le principe est que l'internaute vienne sur sanawe.com, visite le site, voit les projets qui le séduisent, en tout cas s'il en trouve, il peut investir sur un ou plusieurs projets, il peut investir par part de 10 euros, une ou beaucoup de parts, beaucoup allant jusqu'à un maximum de 20% du budget levé. Ça veut dire qu'on veut tout à fait éviter que quelqu'un arrive et dise « moi je prends tout », quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent et qui voudrait faire ça, parce que le phénomène est justement un phénomène de communauté. Et cette communauté va porter une œuvre de bande dessinée. Mais donc, grande liberté sur le nombre de projets qu'on soutient, sur la manière, l'ampleur dans laquelle on le soutient. Il y a aussi une liberté d'ailleurs sur le fait de pouvoir récupérer son argent tant que le budget n'a pas été atteint. Donc, on propose un budget sur chacun des projets. Ce budget est évalué en fonction d'un certain nombre de paramètres. On pourra venir tout à l'heure sur ce qui le constitue. Mais c'est par exemple 54 000 euros, je crois, pour le projet de Jean-Marc. Il Penelo, qui pour le moment a le plus de succès à ce stade-ci de l'expérience. On est après 3 semaines de vie, 12 500 euros investis. 700 membres sur le site. Donc il y a une dynamique qui s'est créée. Mais donc, tant que le budget de 54 000 euros n'a pas été atteint, l'internaute que nous appelons Edinaute, de la contraction de internaute et éditeur, donc l'Edinaute peut récupérer sa part pour la placer sur un autre projet si jamais finalement je suis pas convaincu. Ça se passe pas dans la réalité, en tout cas on voit ça très très peu. Et voilà. Alors aujourd'hui, très concrètement, donc je vous ai cité les chiffres, le plus gros investisseur a mis 1 000 euros. Le plus petit n'est pas seul, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Ils ont mis 10 euros, le minimum. Donc on est sur un vrai panaché. Alors, les gens viennent là pour plusieurs raisons. Donc, c'est d'abord un site de loisirs. L'expérience de l'Edinaute, pour nous, c'est surtout une expérience de loisirs. Ils viennent découvrir ce que c'est que la création de bande dessinée. Ils ont accès à quelque chose qu'ils ne voient pas d'habitude, à savoir un scénario, un synopsis de bande dessinée, du scénario, quelques planches, des dessins de scénaristes, du matériel qu'ils ne sont pas du tout habitués à voir et qui constitue le démarrage d'une bande dessinée. Donc c'est première chose qui peut intéresser un Edinaute. Deuxième chose, c'est le contact avec des auteurs dans le processus, au cours du processus de création. Troisième chose, c'est potentiellement donner son avis. D'ailleurs, c'est pas que l'auteur est soumis à l'avis de tous ses édinautes, mais si à un moment l'auteur dit voilà, j'aimerais bien avoir l'avis sur deux projets de couverture, pourquoi pas le demander à ses édinautes qui sont un peu ses actionnaires. Alors ensuite, quand l'album sort, l'édinaute reçoit cet album et il y a son nom dedans d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a le nom de tous les Edinaute est mentionné en termes de remerciements. Et puis, au fur et à mesure des ventes, donc de l'exploitation commerciale, d'ailleurs tant du livre que d'un droit de traduction, des droits dérivés, de tout ce qui est lié en fait à l'œuvre de bande dessinée, aux droits qui ont été cédés par les auteurs ou l'auteur, tout ça rentre dans une équation économique où l'auteur gagne sa vie. Et on espère qu'il la gagne mieux par le phénomène de buzz et de cette communauté qui porte un projet. Et puis après, les Edinaute reçoivent 60% des bénéfices après avoir payé l'auteur, y a un bénéfice de l'exploitation. Ils en reçoivent 60%, nous prenons 40%, jusqu'à ce que l'Edinaut ait récupéré sa mise. Et à ce moment-là, on inverse la proportion, à savoir que c'est 40% pour l'Edinaut et 60% pour Sendaoué. C'est vraiment notre modèle économique, c'est de vivre de la bande dessinée et de l'exploitation de la bande dessinée.
Est-ce que vous craignez pas que, à montrer les dossiers comme ceci, quelqu'un se dise « Ah, ce projet, il marche très bien, je le prends et je vais voir Guy Delcourt ou Charles Dupuis ». Oui, Charles Dupuis, c'est un exemple. Paix à son âme.
Alors, je ne crois pas que ça peut se passer, pour plusieurs raisons. La première raison très, très formelle, c'est que il existe un contrat dans lequel Eric, Jean-Marc et les autres qui se sont...
Chez un autre éditeur, en fait.
Non, qu'un auteur regarde les dossiers et prenne celui que reçoit le plus de ventes, de votes, pardon, et en fasse le sien.
C'est-à-dire, en fait, c'est est-ce que Sendaoué peut être une vitrine pour les éditeurs classiques pour se faire leur shopping et dire tiens, Jean-Marc, il fait un bon boulot, on aime bien ce qu'il fait, eh bien on va le contacter, on va l'utiliser plutôt que de t'embêter sur un site et d'avoir ben viens chez nous et nous on te donne un contrat directement. Alors la raison pour laquelle je crois que ça ne peut pas se passer, ou les raisons, et après je crois que ce sera très intéressant d'avoir l'avis de nos deux auteurs ici. La première, c'est qu'il existe un contrat dans lequel, quand on met ça en ligne, il y a quand même une certaine exclusivité. Mais au-delà du contrat, je crois que ce serait quand même très très malvenu dans une communauté, puisqu'il y a une communauté qu'on génère avec Sendaoué. Ce serait quand même pas très crédible, tant de la part de l'auteur que de la part de l'éditeur qui vient un peu piquer qui vient faire son shopping. Ce serait quand même très très malvenu. C'est que les gens vont commencer à dire mais enfin vous avez vu tel éditeur X, vous avez vu les pratiques qu'il a là, il va piquer une idée parce qu'il l'a vu sur le net. Et puis cet auteur là, il est quand même pas crédible. Nous on a mis de l'argent dessus et vous rendez compte, donc sur des blogs etc, ça va faire jaser. Donc je crois que c'est une espèce de la communauté de Sendaoué implique une énorme transparence et une rigueur, une déontologie par rapport à ce qui se fera. Et ça met une pression sur tout le monde, une pression de bienséance en fait, de correction. Donc je ne crois pas que ça sera le cas. Maintenant, on voit la vie.
On verra, tout à fait. Est-ce que vous craignez pas d'un autre côté qu'il y en a qui s'amusent ? Allez, je vais mettre un projet pourri pour coller cet éditeur. Je vais créer 1000 comptes fictifs et je vais faire en sorte qu'il ait un max de votes. Comme ça, des gens vont financer pour le sortir et puis voilà, gna gna gna. Ou est-ce que vous vous dites non, peuvent pas parce que quand même, faut sortir l'argent ?
D'abord, je crois que le budget à réunir est beaucoup. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du crowdfunding. De la crowd en anglais, ça veut dire foule. Donc, il faut avoir une foule d'amis. Ça, c'est la première chose. Mais quand bien même c'est possible, il y a des gens qui ont des foules d'amis ou une foule d'amis. Surtout une sélection à l'entrée. C'est-à-dire que Patrick fait son rôle d'éditeur. Son rôle d'éditeur étant ce qui nous distingue d'un éditeur classique, c'est qu'on n'est pas dans le j'aime pas. Sendaoué n'essaie pas d'imaginer seul, enfin Patrick Pinchard tout seul, quel va être le succès public, parce que c'est ça que chaque éditeur essaie de faire en fait. Nous faisons une sélection sur des critères professionnels, ça veut dire Jean-Marc et Eric et ainsi que tous les autres auteurs ont amené des projets qui ont été regardés par Patrick. Ok, c'est une qualité. On sent que c'est solide. On sent que ça va. Si l'argent est réuni, ça va aller jusqu'au bout. Le scénario le scénario existe. La patte du dessinateur est une bonne patte. Enfin, c'est ce qui distingue. Je crois que dans tous les métiers, quand vous êtes journaliste, vous pouvez distinguer un bon journaliste d'un mauvais journaliste. Peut-être que vous n'aimez pas le travail d'un autre journaliste, mais vous pouvez.
Non, on n'est pas journaliste. On est bénévole. Hein.
Ok, mais dans le métier de chacun, je crois qu'on peut reconnaître le professionnalisme d'un autre, même si on n'adhère pas à ses manières ou à ses pratiques. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Celui qui va par contre adhérer ou pas adhérer, décider ou pas décider, c'est le public. Les Edinautes.
Alors justement, nos amis auteurs, le Sendaoué a été lancé mi-janvier. Est-ce que pour l'instant, les échanges que vous avez avec les Edinautes, ça correspond à ce que vous êtes attendiez?
On est le 30 janvier, précision sur la date.
Alors on en parlait tout à l'heure avec Lionel. En fait, à chaque projet est lié à un blog que l'auteur nourrit ou ne nourrit pas dans le but d'avoir un échange. Parce que en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir un contact direct, je dirais, avec les gens qui vous soutiennent. Et donc moi, j'ai fait l'effort au départ, disons un jour sur deux ou des fois chaque jour, de mettre un dessin. Alors des choses qu'on voit pas, c'est des crayonnés, des choses un peu qui sont habituelles pour un dessinateur, mais un peu exotiques pour faire réagir les Edinotes ou d'autres personnes qui passeraient sur le site. Et je dois dire que j'ai eu des retours, mais assez peu en fait. Alors j'ai mis par exemple un projet de couverture que nous n'avions pas retenu. J'ai eu des retours là-dessus. On m'a dit ça c'est pas terrible. J'ai eu deux retours. J'ai mis d'autres dessins et les gens se sont peut-être demandé oui, il a mis des dessins, zéro commentaire quoi. Donc j'ai mis des remerciements, des gens ont répondu.
En même temps, si ça a été lancé depuis 3 semaines, c'est quand même pas mal d'avoir déjà des commentaires, des réponses. C'est un très beau travail.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas systématique, voilà. Mais bon, je dis pas que c'est anormal.
Alors juste pour quand même rajouter quelque chose à ça, on n'est pas encore totalement au point. Donc en effet, c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure en venant ici. Il y a des outils qui nous manquent. Donc on a notamment une notification par email quand quelqu'un est Edinote ou fan d'un projet. Nous allons mettre en place le fait que si quelque chose est rajouté sur le blog, il soit notifié par email. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc techniquement, on n'est pas encore au point pour avoir cette interactivité là. Mais en effet, elle est essentielle parce que qu'est-ce qui est au centre de cette relation, qu'est-ce qui est au centre de cette dynamique de crowdfunding et du succès que ça, du fait que ça puisse porter un projet, c'est la relation affective qui va se créer entre les auteurs et leurs édinotes. Donc on va investir dans cette relation, évidemment. Il est hors de question d'avoir quelqu'un ou d'avoir un site qui se contente de faire un peu de tapage, quelques personnes qui passent par là, qui mettent de l'argent, et puis ils s'en vont, et un an et demi plus tard, d'un coup, ils ont de l'argent sur leur compte en banque. C'est vraiment pas du tout ça la dynamique. La dynamique qu'on veut, c'est de créer un loisir. Les gens qui aiment la BD peuvent participer à la création de BD et vivre ça avec l'auteur.
Dernière question, de point de vue extérieur, on a vraiment l'impression qu'il y a la dimension aussi de compétition qui entre dedans. Enfin,
c'est du capitalisme.
Vous, qu'est-ce qui vous empêche en fait de demander à tous vos amis, dire apporter plus de commentaires, comme ça on va voir que mon blog est plus suivi que l'autre, etc.
Je pense que ça se fait presque naturellement, forcément on en parle à nos amis, alors après ils investissent pas forcément, mais il y a même un côté amusant, parce que justement quand j'ai découvert, quand nous avons découvert avec Jean-Marc que nous étions en même temps concurrents et en même temps chers collègues, et en plus avec cette ambiguïté à la base, c'est que Jean-Marc a été mon étudiant. Donc c'est vrai que c'était curieux de se retrouver là sans d'ailleurs le savoir à la base qu'on allait se retrouver là. Donc ce côté, après c'est une question personnelle, soit vous prenez la compétition comme un jeu, soit vous prenez la compétition pour tuer l'autre. Après ça c'est votre problème personnel.
Et c'était Eric Almer donc qui parlait, Jean-Marc Allais.
Oui, alors bon, je pense que cette compétition existe, mais je dirais qu'elle est vraiment pas essentielle, parce que le but, c'est qu'il y ait plusieurs projets qui arrivent au bout, et donc on voit bien que c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Donc un jour c'est un projet qui si on parle en termes d'investissement, hein, tout simplement, qui a plus d'investissement, puis l'autre jour ou l'autre semaine, c'en est un autre. Voilà.
Et puis l'un n'empêche pas l'autre, on peut être tous les deux édités.
Voilà, je crois que c'est très important. On anticipe une compétition d'abord qui se passe, si on peut appeler ça une compétition, un phénomène qui se passe en librairie. Il y a des bandes dessinées qui sont plus vendues que d'autres. Ça existe. Nous considérons que tous les projets qui sont présentés sur sanaway.com peuvent voir le jour. Le public va décider. Il y en a qui vont prendre plus de temps parce que il y a typiquement un projet qui s'appelle El West, qui est un projet en noir et blanc, plus ardu, mais dont la qualité artistique est incontestable. Mais c'est un projet plus difficile à aborder. Donc moi je suis persuadé qu'un projet comme ça va voir le jour, mais il faut aussi qu'on trouve le public. N'oublions pas que pour le moment on est sur une communauté qui fait 700 personnes. C'est tout petit. On aura quelque chose de représentatif quand on sera sur quelques milliers, sachant que voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est aussi ça, Sanaway et le système de crowdfunding, c'est de valider un choix. il se peut que ce choix ne soit pas validé, donc il y a des projets qui potentiellement ne verront pas le jour, mais c'est aussi parfois malheureusement le cas dans les librairies, il y a des tas de projets qui sont là et qui peut-être n'auraient pas dû voir le jour. Donc ce qu'on veut, c'est que quand un projet voit le jour, et c'est en effet une dimension de risque, c'est la zone la plus délicate, la plus novatrice, la plus neuve, mais aussi la plus délicate pour les auteurs, c'est de s'exposer à ce risque-là. Mais en même temps, on est là pour les soutenir, c'est pour ça qu'on ne veut pas présenter n'importe quoi non plus, mais ce risque existe.
Eh ben, on jugera sur les premières sorties de toute façon. Donc on peut souhaiter que bon vent à Sandawe et nous remercions bien évidemment les auteurs Eric Albert et Jean-Marc Allais, merci beaucoup. Et Lionel Francfort, donc qui fait partie de la structure dirigeante donc de sandawe.com, en vous souhaitant bien évidemment bonne chance et que le meilleur gagne.
Merci beaucoup.
Voilà, interview qui a été réalisée donc fin janvier dernier, après 2 semaines après le lancement de sandawe.com. Si vous n'avez pas retenu le nom du site ou si vous n'arrivez pas à l'orthographier, vous allez dans supplementweekend.fr, vous allez dans nos chroniques et vous avez le lien que l'on a mis ce matin du site. Sinon, sur la fiche de l'émission, quand elle sera publiée, il y aura le lien direct vers sandawe.com, sandawe.com. Alors actuellement, il y a 9 projets qui sont présentés et qui sont ouverts à la souscription du public. Sur ces 9 projets, donc il y en a certains qui sont plus ou moins avancés que d'autres. Mais dis-moi, et qui dit avancé dit classement, et qui dit classement dit top. Et en bas, on va en retenir 5 sur les 9. Et qui dit 5 dit
le top 5.
Et bien sûr.
Évidemment. Numéro 5.
Alors, le cinquième projet le plus abouti est un projet présenté par l'ami au scénario et dessiné par Vervich. C'est Hell West. Donc, c'est un cycle, une trilogie en 3 tomes. 108 planches en tout seront publiées pour ce western fantastique. Et il a atteint 2 600 € sur 57 000 de la mise de fonds attendue. Au-delà du Mississippi, on ne trouve que des abominations, des monstres nécromants, des créatures hideuses. Alors, oubliez tous ces westerns et bienvenue dans le Hell West.
Numéro 4.
Le quatrième projet le plus avancé au financement sur le site Sandawe est La Nuit des Carbophages, qui est un projet qui est présenté par Tsiligas au dessin et Malherbe au scénario. C'est une aventure fantastique, une histoire complète de 44 pages qui raconte que les fondations de l'Empire britannique de Sa Majesté la Reine Victoria sont menacées par un cerveau malade et son armée de monstres. La Ring and Wing Agency a fort à faire pour sauver la civilisation du chaos. Pour votre information, donc ce projet, on attend un investissement de 54 000 € là-dessus et il est actuellement de 2 940 €. Pas trop mal.
Numéro 3.
Le projet suivant, qui est le troisième le plus avancé sur le crowdfunding, c'est Corpus Christi. Donc le premier tome, c'est scénarisé par Mengoval, mais surtout dessiné par Eric Albert, que l'on a eu en interview tout à l'heure. Donc c'est une histoire longue qui aura 48 planches par album. C'est une aventure, un polar, un thriller pur et dur, de 46 pages, la découverte d'un corps momifié mais en danger, un secret transmis de pape en pape et déclenche une chasse morbide dont le gibier pourrait bien être autre que le corps du Christ. Pour votre information, on attend Sandawe et les auteurs attendent 54 000 € de levée de fonds et ils en sont actuellement à 4 800 € investis.
Numéro 2.
Maître Korbach, qui est présenté par non pas des novices de la bande dessinée, loin de là, puisqu'il s'agit de Zidrou au scénario et E411 au dessin, des auteurs que l'on a vu d'ailleurs régulièrement chez Dupuis et qui ont un dessin qui est beaucoup moins réaliste mais plus je vais dire humoristique. C'est de l'humour assez noir puisque en fait c'est l'histoire de Maître Korbach, rapace des temps modernes, qui n'a pas son pareil pour déterrer les affaires aussi juteuses que puantes. Et croyez-le, cette verrie veineuse personne ne recule devant aucune entourloupe pour emporter le fromage. Bref, c'est du polar juridique. Assez humoristique et violent. 36 000 € sont attendus pour la levée de fonds et actuellement on en est à pas loin de 5 000 € qui ont été investis, 4 940 €.
Numéro 1.
Et le projet le plus avancé en financement, le plus proche d'être sorti en album chez Sandaway Edition, il s'agit de Il Penelo, qui est donc dessiné par Jean-Marc Allais, que l'on a eu donc dans cette interview aux côtés de son éditeur, et scénarisé par Perrotin. C'est un polar en histoire complète, ou plutôt de l'anticipation, où en 2054 à Paris, un dessinateur de bande dessinée ratée découvre Il Penelo, le pinceau utilisé par Léonard de Vinci, qui donne du talent à celui qui l'utilise. Il possède également le pouvoir de donner la vie à celui qui, à ce qui est dessiné. Mais jouer avec la vie, n'est-ce pas jouer avec le feu ? Donc voilà, donc il s'agit d'un classement qui est fait sur la base des levées de fonds attendues par l'éditeur Sandaway, par les auteurs respectifs de chacun des 9 projets qui ont été retenus. À noter que derrière les autres projets, il y a une certaine Laurel dont on a parlé pour le journal de Carmilla, Blatt, Falzar, La Puce, Rimo, vous pouvez Godzi, Zidrou, ça on en a déjà parlé. Vous pouvez consulter l'ensemble des projets tels qu'ils sont usuellement présentés à ces éditeurs, c'est-à-dire que vous avez accès à la fois à des planches, à une présentation d'un script, à des études, des recherches et de planches complètes, voire même j'ai vu qu'il y avait des animations en vidéo là-dessus pour pouvoir mieux les présenter. C'est sur le site sandawe.com, sandawe.com, sinon vous allez sur supplementweekend.fr, vous cherchez le lien, c'est dans nos chroniques. Voilà, et pour en savoir plus. Mais on me fait signe derrière en régie que je suis bien gentil et que il est 12h44, que on a passé la pub depuis un certain temps, donc il va falloir que quand même je rattrape ça, donc il faut, je prends le fichier bande annonce, voilà, je l'ai sous les yeux, et donc on va passer avec beaucoup de retard la pub. Tiens donc. Ah.
Infectious Grooves est de retour à Toulouse pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Le quintet originaire de Los Angeles sera au Bikini le mardi 23 mars pour un concert à s'en découler la plèvre. Écoutez les 5 à 7 de Radio FMR, des places seront à gagner pendant toute la semaine pour le plus grand bonheur de votre portefeuille. Infectious Grooves, le mardi 23 mars au Bikini, en partenariat avec Radio FMR. Toutes les infos sur lebikini.com ou sur radio-fmr.net.
Bah ouais, mais si vous mettez des blancs, ça marche pas. Faudra tout leur expliquer à ces jeunes, je vous jure. Mais moi je serai plutôt au concert de Hot Chip qui aura lieu mardi prochain au Bocono. Et Chip qui est vraiment une révélation anglaise, enfin moi je m'éclate, hein, les écouter. Bon. Vous en foutez, on entame les sorties bande dessinée. Ouais. Merci Duce. C'est le supplément week-end numéro 231 d'ailleurs il me semble. Et on va commencer les sorties avec Keiko Ichiguchi qui est une dessinatrice de manga, mais que l'on a déjà interviewée dans cette émission, dans le supplément week-end à Angoulême, en italien, puisqu'elle vit en Italie. Là où la mer murmure, c'est un one shoot, une histoire complète, donc qui est sorti dans la collection Made in Shikana. Et on est dans une station balnéaire de la côte adriatique où une maison familiale propose de louer des chambres pendant la saison touristique. Mais l'été arrive à sa fin et Marina, fille unique, se prépare à retourner à son lycée. Alors qu'elle se promène sur une plage, un jeune Français en vacances surgit de l'eau tout habillé et lui dit qu'il cherche une chambre. Bon... Mais la rencontre marrante va vite tourner quand José, ce jeune garçon, très beau, sorti de la mer, pose certaines questions à Marina sur elle. Comment est morte la mère de Marina et pourquoi ressemble-t-elle tant à Claudia, cette étoile filante de la pop française disparue depuis 15 ans? Marina décide de poser la question à son père alors qu'elle n'avait jamais osé, et elle découvre avec effroi que son père lui a menti, que sa mère n'est pas morte comme elle a cru. Pourquoi le père de Marina lui a-t-il fait un tel mensonge? Pourquoi l'avoir privé de sa mère et avoir entretenu sa fille dans le regret et le chagrin? Marina décide donc de suivre José en France, ce qui deviendra une quête. Qu'est devenue la star? Qu'est-il arrivé à sa mère pour qu'elle disparaisse comme ça? Et surtout, est-ce qu'elle a une tombe? Keiko Ichiguchi est une mangaka qui était venue s'installer pour travailler en Italie, et de son nouveau pays, elle a écrit une suite d'articles assez amusants sur la petite réalité des Japonais. Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés? C'est là-dessus pour lequel on l'a interviewée, c'était toujours édité par Kana. Et le Japonais pète, les Japonais pètent aussi parfois les plombs. La suite encore de cette suite d'articles sur la vie quotidienne réelle des Japonaises. Mais elle continue sa production de bande dessinée avec ce one shot qui est très troublant sur l'amour, l'absence de l'autre et la folie. Graphiquement, c'est très émouvant. C'est une très belle histoire qui laisse comme un trouble dans les yeux. Keiko Ichiguchi, Là où la mer murmure, c'est dans la collection Made in chez Kana. Lui, je crois qu'il va se jeter dessus.
Ouais, ouais. J'ai feuilleté et là. Je veux dire, pour un manga, le dessin, il m'interpelle, là, tu vois. Quoi.
On dirait un shoujo, hein, c'est la bande dessinée pour filles, hein, quand même, mais c'est agréable. Il y a quelque chose de vraiment qui passe dans l'émotion, rien que par le dessin.
Ouais, non, mais là, vraiment, c'est très fort. Il y a c'est vachement fouillé. La mise en page est pas mal et tout, ça me plaît bien, quoi.
On va passer avec complètement autre chose puisqu'il s'agit de DMZ, le sixième tome de la série absolument gigantesque de Brian Wood au scénario et Riccardo Burchielli au dessin. Là encore, c'est un Italien, mais cette fois-ci né en Italie. DMZ, le numéro 6 s'appelle Un jeu sanglant, il est sorti depuis un mois et demi hein, quand même chez Vertigo, dans la collection Vertigo chez Panini Comics, et ça semblait intéressant de le parler maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Après plus de 5 années de guerre civile fratricide, après 5 années où New York est partagée entre les États-Unis et les États libres du FSA, et où l'île de Manhattan est devenue une zone démilitarisée, DMZ en anglais, un espace de conflit où les habitants sont sous le feu des deux camps. On peut enfin respirer. Du moins, on le souhaite. Les partis en présence sont mis d'accord pour organiser une élection libre dans la DMZ, afin de prouver que malgré tout, on est encore en démocratie en Amérique. Matty Roth, seul journaliste présent au sein de la DMZ, pourrait voir ça de manière cynique. Mais une voix s'est élevée du côté de Spanish Harlem et est entrée en campagne. Paco Delgado, soit-il le Hugo Chavez de New York, de Nueva York, et c'est le problème que les reportages de Martin Roth commencent à être retoqués par la chaîne Liberty News, qui est plutôt côté USA. Et finalement, on ne peut blâmer la position de Liberty News. Alors, comme nous sommes, à l'heure où je vous parle en direct, en pleine période de moratoire électoral, puisque l'on vote demain pour le premier tour des élections régionales en France, je suis censé ne pas parler des sondages ni de vous influencer en rapportant les propos des partis en présence. Donc je ne donnerai pas de détails sur le passé du candidat au poste de gouverneur de Manhattan, sur la liste conduite par les USA avec leurs représentants officiels, sur la liste présentée par les États libres FSA, ni sur la société Trustwell qui semble aussi avoir son candidat, alors que mince, c'est une entreprise privée qui est censée faire, la sécurité. Et enfin, la Delgado Nation, conduite par Paco Delgado. Je ne dirais que ceci. La série DMZ est le comics majeur de la décennie. Un roman graphique à la fois politique et philosophique, bouleversant, terrible. Une science-fiction d'anticipation qui est vraiment un laboratoire, qui permet de mettre en scène des situations de manière extrêmement réaliste. Et c'est en ça que c'est la science-fiction la plus noble. Et même trop comme nous l'a raconté Riccardo Borchielli dans son interview qu'il a fait dans le supplément Week-end, puisque lire ce comics dans un aéroport américain ostensiblement peut vous causer beaucoup de soucis au moment d'embarquer. Ça veut dire combien cette série dérange. C'est une excellente idée déjà aussi, et c'est à signaler, c'est rare que je le souligne, sur la maquette du livre, puisque les pages hors bande dessinée sont envahies par les consignes de vote et les reproductions de bulletins de vote américains. Faut savoir que en France, on utilise le système suisse de bulletins glissés dans l'urne, c'est-à-dire un bulletin pour chaque type d'élection et un bulletin par candidat. Alors qu'en Amérique, comme on fait plusieurs élections en même temps, tous les deux ans, en novembre en général, on utilise un gigantesque bulletin en papier pour toutes les regrouper et où il faut cocher ses choix électoraux. Donc on a plusieurs listes, on a les élections par exemple des délégués de parents d'élèves, des délégués de quartier, les élections municipales, les élections de juges de paix et les élections présidentielles et plein de les élections sénatoriales, les élections du gouverneur. Bref, ça fait beaucoup de choses à gérer une fois et les États-Unis avaient tenté de moderniser ça par le vote mécanique puis par le vote informatique. On s'est dit, on va utiliser la technologie pour simplifier ça. Ça a été un échec et manipulation. On se souvient quand même du vote en 2000, très contesté, notamment en Floride, et taclé quand même pour les élections présidentielles. Alors imaginez un système aussi compliqué mis en place dans un pays qui est en pleine guerre civile, où les belligérants sont à la fois des armées, des groupes politiques, des entreprises et, je ne sais pas, peut-être des anciens mafieux. Qui oserait mener à terme le principe démocratique ? Ah oui, j'ai oublié. C'est quand on ne peut plus voter qu'on trouve la démocratie formidable. Donc demain, allez-y. DMZ. Oh. Et B. Si, tout à fait, pardon, je m'étais sur ma pré-écoute, je vais te planter, voilà. Brian Wood, scénario, Riccardo Borchielli, DMZ, sixième tome, un jeu sanglant, c'est chez Vertigo, c'est dans la collection Vertigo chez Panini Comics, c'est sorti depuis un mois et demi. Mais allez-y, allez l'acheter cet après-midi, et reposez-vous la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de ne pas aller voter demain? Numéro 231, vous écoutez sur Radio FMR 89.1 MHz à Toulouse et sur le site supplementweekend.fr en différé pour le podcast, ainsi que sur le stream de Radio FMR, radio-fmr.net pour le stream en Angvorbis, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent en direct régulièrement. Ça me fait plaisir, en plus du podcast. Merci à vous tous. Et on va faire une longue interruption musicale avec Pendulum. Fluttering Fats, un petit 6 extrait Plastic Words et extrait de leur premier album Hold Your Color. Tenez bien haut vos couleurs ou justement montrez vos opinions.
Pendulum, Plastic World featuring Fats and TC. Et n'oubliez pas d'aller voter demain. Et n'oubliez pas l'anniversaire.
L'anniversaire, ouais, bah, il est passé.
Ils l'ont oublié.
Oui, il est passé. Hein. C'était le 10 mars, donc cette semaine. Et on fêtait les 70 ans de Chuck Norris.
Alors d'abord, tu avais pété la gueule à ce micro parce que j'ai l'impression qu'il merde beaucoup.
Lequel ?
Celui-là, tu vas,
le mien ?
Ouais, tu vas en prendre un autre.
Oh là là, mais à chaque fois c'est pareil quoi. À chaque fois, tu fais
bienvenue,
le coup,
bienvenue à Radio Éphémère. Hein. Désolé pour.
Bon, l'autre marche mieux là.
Ah oui, largement mieux. Ouais. Bon. Oh punaise. Alors, oh là. Cool. Alors attention, voilà, vas-y. Donc, Chuck Norris, pourtant, ce 70 ans, j'ai du mal à y croire.
Ben ouais, on croyait qu'il est immortel ce mec, hein, de toute façon, quoi. Alors en plus, ben, c'est peut-être dû à son ascendance un petit peu bizarre quand même, parce que c'est un sacré mélange. Hein. Moitié Cherokee, moitié Irlandais. parce qu'il s'appelle Carlos Ray Norris, en fait, de son vrai nom. Né donc le 10 mars 1940, c'était en Oklahoma, chez les Hokies en plus, hein, et pendant la bonne période. Donc du fait à Ryan, donc en Oklahoma. Donc du fait, bon, la Grande Dépression était passée et tout, mais il y a continué à avoir cette espèce d'énorme exode massif. Des Hokies, c'est-à-dire de l'Oklahoma, région montagneuse, vers la Californie, où on retrouve une colonie importante de Hokies. C'est devenu d'ailleurs un terme un petit peu péjoratif d'ailleurs de ce côté-là, parce que bon, ça veut dire les paysans,
ceux qui viennent de la montagne. Les récolteurs de patates.
Voilà. Et plus tard, on appelait ça des hillbillies. Aussi.
Exactement. Oui.
Voilà.
Et là, ça venait du fait qu'ils étaient dans les hautes colonies.
Oui, mais ça venait pas uniquement que de ce fait-là. Hein, attention. Alors, bon, pour revenir à notre ami Carlos Ray Norris, Chuck Norris, en fait, il a une éducation assez normale et tout, des parents relativement aisés, on va dire, pas super, enfin pas dans la dèche quand même, mais comme le père disparaît, lui doit aider tout de suite, assez vite rentrer dans la vie active, et il s'engage dans l'aviation, on le trouve en Corée. En Corée, il va apprendre.
Ça remonte tout loin, c'est dit, hein, parce que la guerre de Corée, 54-58.
Ouais. Non, mais il va pas participer directement à la guerre, mais il va se retrouver par le biais parce qu'en fait, il travaille pour un constructeur d'avions militaires, donc il est envoyé là-bas pour faire la maintenance. Et il apprend le Tang Sung Do, qui est un petit peu le rival du Taekwondo en Corée. À l'époque, hein, il y a deux arts martiaux majeurs. Bah, c'est lui, il apprend le Tang Sung Do. Il apprendra le Taekwondo un petit peu plus tard. Alors, il devient instructeur de karaté.
Au pied levé.
Devient instructeur de karaté toujours, donc pour cette compagnie aérienne et tout. Puis, il commence à faire des petits à côté.
Ah oui,
comme
instructeur
ça.
Officiel de l'armée.
Pas pour l'armée, mais pour cette compagnie qui fabriquait des avions militaires.
Ah d'accord,
donc,
ok, pardon. Hein, ok. J'avais mal compris.
En même temps, il développe plus ou moins sa salle de cours et tout. Et la publicité de ses amis et de ses clients prestigieux qui va lui faire acquérir une certaine renommée, à savoir Steve McQueen, qui apprend à connaître dès les années 65-66, les Osmond Brothers également, Priscilla Presley, parmi ceux qui sont les plus connus. Et donc, en fait, son cours devient un cours assez connu, augmenté par le fait...
Ça veut dire qu'à 26 ans, donc déjà, il côtoyait tout ce monde-là.
Oui, il taquinait déjà, et c'était l'entraîneur en arts martiaux de bidule et tout. Ce qui fait que dès 68, déjà, on le retrouve dans un film, dans un premier film, et pas n'importe quoi. Bon, il a un petit rôle, mais c'est dans Matt Helm, Règle son compte, de Wrecking Crew.
Ah oh, punaise, je l'ai pas vu. Mais il est passé cette semaine, je l'ai pas vu. Je l'ai pas reconnu, pardon.
Non, mais bon, c'est un très petit rôle. Et en même
tu veux
temps,
dire qu'il était sbire
et en même temps, crédibilité oblige et tout. Il devient champion du monde des poids moyens de karaté, hein, c'est-à-dire lors des tournois qu'ils organisaient. Et il va devenir possesseur de ce titre. Il va garder ce titre jusqu'en 1974, date à laquelle il l'abandonne et période pendant laquelle il n'a jamais été défait. Undisputed champion, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique.
Forfait par lassitude.
Alors parallèlement, bien sûr, il développe justement parce que il a des acquaintances avec le milieu du cinéma, ça on s'en doute, et qu'il a déjà participé à des trucs. Bien sûr, sa participation la plus remarquée, on va dire, au début des années 70, reste bien sûr le retour du dragon avec Bruce Lee et cette mémorable castagne.
cette mémorable castagne avec le Colisée en toile de fond. Hein, donc bon, là, il n'y a rien à dire, il se fait proprement bien dégommer, délater la gueule et tout, mais bon, c'est quand même par Bruce Lee, donc ça, c'est pas mal. Il fait également une apparition dans Black Tigers la même année, film de Ted Post, qui le réembauche en 79 pour Good Guys Wear Black. Ensuite, ça commence à être les films qu'on connaît, les films des années 80, en 1980, Lone Wolf, McQuaid, Œil pour œil, le film de Steve Carver. Il y a également Code of Silence en 85, Sale temps pour un flic, le film d'Andrew Davis, qui est dans sa filmographie, on va dire, le film le plus abouti, parce que fait par un réalisateur qui faisait partie à un moment de la A-list à Hollywood. Andrew Davis, c'est pas n'importe qui quand même, enfin c'était pas n'importe qui quand on regarde les autres qui sont plutôt des réalisateurs de série B voire série Z, ok on comprend un petit peu la différence, dans lequel il est pas trop mauvais. La même année Sale temps pour un flic, il y a également bien sûr Porté disparu, Missing in Action de Joseph Zito.
Et c'est là où il s'enfonce, je vais dire, dans les répliques.
Ah ben, non, mais là c'est la copie conforme de Rambo, le héros qui revient du Vietnam est vraiment c'est la perte de gloire avec tous les Rambo. Donc il faut faire pareil, ça marche bien, donc c'est Missing in Action. Il fait également Invasion USA la même année avec Joseph
Zito. Attends, parce que là quand même, on a l'extrait de la réplique d'Anthologie, celle-ci, on ne l'oublie pas.
Ouais,
c'est
ouais.
Extrait de Braddock 3, hein, Porté ouais. Disparu.
Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Eh ouais.
Oui, celle-ci, on l'oublie pas.
Et
je remercie d'ailleurs le site Nanarland, qui est absolument indispensable pour l'extrait. Donc, c'est eux qui l'ont fourni. Et là, c'est non seulement des tatanes, mais des répliques plus que fracassantes.
Facile. Dans Missing in Action 2, qui sort l'année suivante, bien sûr, c'est la même chose. Mais il y a également le Delta Force. L'original de Menahem Golan, bien sûr. Il y a également aussi Firewalker, dans le même genre, Le Temple d'Or de Jack Lee Thompson, toujours en 86. En 88, Hero and the Terror de Tannen. Et Delta Force 2, qui sort en 90, mais là, réalisé par le petit frère, Aaron.
Oui, parce que l'autre, il était un petit peu coincé dans son boulot de producteur. La Canon Film commençait un petit peu à battre de l'aile, hein, je me souviens bien.
Bon, dans les années...
Il reste quand même les forces spéciales, le prestige des forces spéciales,
bien
merde.
Bien sûr. Et dans les années 90, bon, ça continue un petit peu dans le même genre, dans des productions un petit peu plus hasardeuses, on va dire, hein, pour rester poli. Mais par contre, là où il tape fort, c'est la troisième partie de sa carrière, on va dire, hein, après... une carrière d'instructeur de karaté, de champion de karaté, après une carrière cinématographique, on va dire, pure et dure, eh bien, il s'attaque à la télé avec, eh bien, là où on connaît le mieux, et pour les jeunes générations, bon, mais qui connaissent plus, sous cet uniforme-là, on va dire, hein, sous cet accoutrement-là, le fait qu'il ait été dégommé par Bruce Lee dans un Bruce Lee, quoi. À mon avis, c'est plus là-dessus qu'on se base. C'est bien entendu Walker Texas Rangers.
In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth.
Alors c'est lui qui chante, il compose la musique.
Lui qui chante, ça.
Oui, oui. si. Il est producteur, bien sûr, exécutif avec Leonard Katzman et Aaron, son petit frère. La musique, pas celle-là du générique, mais la musique du générique original est de Christopher Franke. Et bien sûr, on a James Trinet, c'est Clarence Gilliard. Shiri G. Wilson, celle qui crève, qui revient, c'est Alex Cahill. Et on a Chuck Norris dans le rôle de Walker, qui s'appelle de son prénom...
Texas.
Cordell. Cordell.
Ah, mince, je le savais.
Cordell. Ah. Cordell Walker. Donc.
Quand on a beau le regarder pour rigoler,
depuis
on retient
93,
pas.
Depuis 93 sur CBS. Alors j'ai pas compté le nombre de séries parce que c'était pratiquement encore toujours en cours. Il y a pas si longtemps que ça.
Ça on va vite le voir.
Donc on a laissé tomber, mais ils ont passé le cap des 200 épisodes tranquille, hein, sans problème.
Alors très exactement, moi on me dit 203 épisodes, 8 saisons.
Tiens, tu vois.
8 saisons et ça, ouais. Ça a été arrêté en mai 2001. Il a pas pu arrêter à temps les Al-Qaïdistes.
Ouais.
Mais attends, bon, tu veux dire que c'est aussi vieux que ça là, ce qui nous rabâche sur l'une?
Ah oui, tout à son quoi. Ouais.
Note, oui, il arrivait à 60 ans hein, quand il a arrêté.
Et oui. Et il levait encore la jambe malgré les jeans moulants quoi, tu vois. Pour te dire hein.
Bon, enfin, les scènes de combat étaient plus faites par ses partenaires que par lui. Avis personnel. Mais c'est quelqu'un qui joue énormément de sa propre renommée sur les films d'action, des trucs de tatane complètement délirants. Mais il s'auto-parodie lui-même. Il a fait plusieurs apparitions dans Saturday Night Live. On l'a vu aussi dans Judge Ball, où il apparaît, il fait un thumbs up d'anthologie avec son nom dessous, Chuck Norris. Il participe justement aussi beaucoup à cette renommée nanard qu'il est. Je sais pas s'il l'assume pleinement, mais bon, il sait que ça fait partie de lui. Et tous ces fax complètement délirants, Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Ou encore Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau que c'est Chuck Norris. Et bien évidemment, le dernier homme à avoir serré la main à Chuck Norris, c'est Jamel Debbouze. Ça fait partie des milliers de vannes autour de Chuck Norris. Je trouve qu'à la limite, c'est beaucoup plus risqué que faire des blagues sur les Belges. D'abord parce que ça fait rire, pas tout le temps, mais ça fait rire. Et puis ensuite, parce qu'il peut répliquer, et si jamais il tombe sur vous, il peut vous faire mal. Il y a 2 types d'espèces dans le monde. Les espèces disparues et les espèces que Chuck Norris laisse vivre.
Et alors par contre justement on disait que à propos de Walker Texas Rangers, on se dit chaque fois qu'on allume la 1 on va tomber sur Walker Texas Rangers. Et ben j'ai cherché, ben c'est plus diffusé en ce moment hein.
Du tout, le dimanche.
Non, même pas le dimanche.
On l'a vu dimanche dernier.
Mais ce dimanche, ce ne sera pas diffusé parce que c'est le retour de la Formule 1. Eh oui, mon gars, j'ai cherché, hein, mais quand même. Mais par contre, quelques petites nouveautés quand même à se regarder. En ce qui concerne des séries, c'est des saisons inédites en fait, et c'est chaque fois la saison 8 inédite de 2 séries qui sont quand même des séries phares. Déjà le retour de New York Section Criminal Intent, avec toujours la même équipe, Eric Bogossian, le patron de l'équipe, Catherine Herbe et Vincent D'Onofrio, mais avec comme ça se passait dans les saisons précédentes, à savoir quelques absences de Vincent D'Onofrio, enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus, enfin le personnage est un peu tumultué dans sa tête, donc ce qui fait que des fois il peut pas être disponible pour les tournages, donc c'est pour ça qu'on a eu Chris Nott qui le remplaçait dans d'autres saisons, en compagnie de Julian Nicholson, et là bon bah Chris Nott, on a décidé de le laisser tomber, et de mettre quelqu'un d'autre à la place qui s'est fait un petit nom dans le monde de la télé il y a pas si longtemps que ça, avec une série qui s'appelait Reigns, mais qui a été annulée parce que elle n'a pas trouvé son public, et il s'agit de Jeff Goldblum, qui atterrit donc dans New York Section Criminelle. C'est donc à partir de mercredi en prime time sur TF1 à 20h45 avec 3 épisodes directs dans ta gueule de la saison 8. Folie à 2, moins 10, crise d'identité, moins 10, et que sa volonté soit faite, un petit moins 12. Et 2 jours après, vendredi prochain, 20h45, toujours sur TF1 CSI Miami, saison 8, avec 2 épisodes inédits donc, Poste pour le marié et Mauvaise graine, avec comme guest star un certain Steven Culp.
C'est bien dommage parce que on a CSI Miami, c'est la première saison qui diffuse où on n'a pas la VO.
Ah, les boules quoi.
Ah ouais, mais vraiment.
Alors Steven Culp, c'est le mari.
On peut pas jouer au Caruso Lotto. Ouais. C'est pas drôle.
Alors Steven Culp, c'est quand même le mari de Felicity Huffman dans Desperate Housewives, hein, pour les gens qui ne seraient pas au courant. Alors cette saison 8, elle paraît alléchante par plusieurs choses. Déjà, un épisode réalisé par Rob Zombie. Déjà un Pardon triple crossover
Rob avec... Zombie qui réalise, waouh,
avec triple crossover avec les autres franchise CSI, c'est-à-dire New York et
Las
Vegas.
Ça, ils l'ont fait en catastrophe parce qu'ils avaient un problème d'audience pour New York, donc ils ont dit on rebooste tout le monde. Allez hop.
Et quelques petits guest starring agréables du style Malcolm McDowell, William Forsythe, Michael Madsen. Donc ça nous promet, pourquoi pas, une bonne huitième saison de CSI Miami. C'est vendredi prochain sur TF1 à partir de 20h45 et lundi à 20h35 sur France 2. Vous tirerez tous une petite larme en disant c'est le dernier, le tout dernier, il n'y en aura pas d'autre. FBI porté disparu. Dernier épisode qui s'appelle Au large avec Kenneth Mitchell, Nicholas Brendon et Alicia Lee Willis. Nicholas Brendon, ça dit quelque chose quand même.
Vaguement,
ah ben oui, Alex dans Buffy, voyons. Ah mais oui, c'est lui. Oui. Donc je rappelle, FBI porté disparu. Le dernier épisode, c'est lundi à 20h35. Ciao Anthony La Paglia. Des films à présent sur la télé que vous préférez ce soir sur RTL9 à 20h35, un petit western qui est pas dégueulasse quoi, de Mario Van Peebles, La Revanche de Jesse Lee. Possi, La Revanche de Jesse Lee, réalisée en 93 avec Billy Zane, Stephen Baldwin, Tiny Lester Jr. et Mario Van Peebles bien sûr, ainsi que son papa Melvin, pour un western qui prend un petit peu l'envers du décor, à savoir qu'il utilise plus de black que de blanc, et c'est une histoire de black donc, mais dans le Far West, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait pas mal de blacks qui zonaient également à l'époque.
Ah bah, une fois qu'ils soit ils avaient fui les États du Sud, soit justement ils avaient été affranchis.
C'est ça, il y avait beaucoup d'États dans lesquels les blacks étaient libres, affranchis, donc pouvaient zoner où ils voulaient. Bon, ça n'empêche pas que, bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Enfin bon, pas parce qu'ils étaient libres qu'ils étaient mieux lotis, on va dire, à tout point de vue quoi. Hein, ça c'est clair, de toute façon. Alors le film est sympa, hein, de toute façon quoi. Ça cesse de regarder, c'est un bon petit western. Mais cet après-midi à 15h20, je sais ce que tu vas faire. Tu vas te mettre devant RTL9 pour regarder Dent pour Dent de Steve Carver avec Chuck Norris, Christopher Lee. C'est cet après-midi à 15h20.
Je voulais voir Amy Five.
Ce sera pour la prochaine fois sur TCM ce soir. À 20h40 également, Goodfellas de Scorsese, hein, tu sais, toujours bien regarder, bon film, il n'y a pas de problème. Demain sur RTL9 à 20h35, Tolérance Zéro de Kevin Bray, ouais, avec Dwayne The Rock Johnson, Johnny Knoxville, Neil McDonough, tout ça dans Tolérance Zéro, un hein, gros foutoir, mais enfin bon, c'est un petit peu rigolo quand même. C'est Bourpif de toute façon demain soir, hein, aussi, avec NT1 qui vous propose à 20h35 Double Impact de Sheldon Leitch avec JCVD en double, Geoffrey Lewis et Bolo Young, ou alors Direct 8 qui vous propose Nevada Smith de Henry Hathaway à 20h40 avec McQueen, Arthur Kennedy, Karl Malden, ou alors Canal Jimmy qui vous fait une soirée ciné qui est sympa avec tout d'abord un western à 20h40, Silverado de Laurence Kasdan en 85 avec Kevin Klein, Scott Glenn, Kevin Costner, Rosanna Arquette, et après là on se demande, mais bon c'est pas mal, c'est sympa, à 22h55 Exilé de Jonito avec
oui.
Lee Chung, Anthony Wong et tout. Bon,
Thomas on a déjà parlé la semaine dernière,
ouais,
voilà.
Ouais, non mais c'est sympa.
Non, parce qu'il est 13h20 hein, sur Radio FM.
Sur Polar, on a Chotaz à 21h, un film de Chess Silvera avec que des reggae men dedans. Kimani Marley, Spraga Benz, Paul Campbell, Wycliffe Jean.
Ouh, Wycliffe
Jean. Sur Action à 20h40, toujours demain, Deux doigts sur la gâchette de Deron Sarafian avec Christophe Lambert et Mario Van Peebles. Patrick Stewart, Dennis Leary, tout ça dans le même film. Bah ouais, en plus c'est même rigolo quoi, tu te rends compte quoi. Alors lundi sur Canal Plus à 22h25, ça aussi c'est rigolo, Tonnerre sur sous les tropiques de Ben Stiller. Sur Arte,
il y a eu hier La nuit la plus con, voilà, la quatrième, déjà, c'est la rediff.
Voilà, c'est la rediff. Sur Arte, lundi à 20h35, La vérité d'Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot dans son meilleur rôle. Samy Fray, Charles Vanel, Marie-José Nat et Paul Meurice.
C'est pas celle où elle joue une pauvre fille qui s'attire tous les fous de la justice. Un film en noir et blanc d'ailleurs,
ouais,
si je me souviens.
Ouais.
Très très beau.
Oscar.
Étonnante.
Oscar du film étranger également, ce film.
Eh bah, mérité parce que Bardot là-dedans, elle fait la petite jeune ingénue, elle est. Elle est impressionnante, je veux dire, dans le rôle dans lequel elle fait.
Non, mais
je veux pas dire que physiquement.
Là, mais parce qu'elle fait pas encore du Bardot.
Oui, c'est vrai. Et pas encore Gainsbourg, pas encore défouillé.
Non, ouais, ça c'était longtemps après. Sur RTL9, lundi à 20h35, Rising King au nom du roi du V-Ball avec Jason Statham, Lily Sobieski, Jonathan Rhys-Davies, Ron Perlman, Kristanna Loken, une espèce de truc de Moyen-Âge médiéval, là, Seigneur des Anneaux et tout, où tu vois Jason Statham qui se bat avec un sabre et tout, des trucs pas possibles, quoi, des trucs tu le crois pas, mais pourtant là t'es obligé d'y croire. Et ça sait se regarder quand même, c'est assez sympa et tout. Ron Perlman il crève, Jason Statham il crève, enfin bon, il y en a pas qui crève, quoi. Bien sûr, hein, c'est un petit peu bourrin violent, c'est normal, c'est du UV ball. Mais ça se laisse quand même assez bien regarder. Ce qui se laisse super bien regarder, de toute façon, c'est sur Paris Première lundi à 23h, Las Vegas Parano de Terry Gilliam.
Gilliam. Ou alors. Terry Gilliam.
Ouais, mais moi je m'en fous, quoi. Je prononce comme je veux. Sur TMC, lundi, une soirée sympathique avec la comparaison entre deux films qui sont copiés-collés, on va dire, pratiquement. Mais pourtant, ils sont tous les deux, ils ont eu un super succès à l'époque. Et bon, voir ce qu'ils préféraient l'un ou l'autre et tout. D'abord, c'est 48 heures de Walter Hill en 82, hein, l'archétype du film de Buddy Movie. Et à 22h, le film de Beverly Hill, un autre Buddy Movie, enfin plus one shot, mais
Et dans les deux, le même acteur.
Et dans les deux, bien sûr, Eddie Murphy, alors savoir quel est le meilleur et tout. Moi
c'est le film 48 heures.
Moi c'est
largement.
48 heures largement.
Parce qu'il est plus polar, il est pas à côté humour.
Voilà, et le méchant est vraiment plus méchant, il s'agit de James Remar bien sûr.
Ah, si tu réussis le méchant.
Et sinon ouais. Et lundi également une soirée où tu auras Ashley Jeune sur deux chaînes en même temps, une fois sur France 4 à 20h35 dans Double jeu de Bruce Beresford avec Tommy Lee Jones et Bruce Greenwood, ou alors en même temps à 20h35 sur W9 dans Instinct meurtrier de Philip Kaufman avec Samuel L. Jackson, Andy Garcia, Russell Wang, tout ça, putain, ça merde pas hein, quand même. Sur TCM à 22h40, lundi toujours, La Ville abandonnée qui s'appelle en fait Yellow Sky dans son titre original avec Gregory Peck, Anne Baxter, Richard Widmark et Robert Arthur, hein, William Wellman de 48, William Wellman né en 96, 1896, né en 1975. Alors lui c'est un dur de dur quoi, tu vois, parce que bon, il s'engage dans la Légion étrangère pendant le début de la Première Guerre mondiale en tant qu'ambulancier, il va finir pilote de l'escadrille Lafayette, pilote d'avion donc à la fin de la Seconde Guerre de la Première Guerre mondiale.
Sur les monoplans à l'époque, les biplans pardon.
Voilà, croix de guerre avec palme, s'il vous plaît. Oh, il fonce à Hollywood et il commence à faire des films dans le début des années 20, donc des films muets. Quelques films d'ailleurs avec qui parlent d'aviation bien sûr, hein, Wings en 1929, Young Eagles en 30, et c'est en 31 qu'il fait un film qui commence à faire parler de lui et qui commence à l'imposer comme étant un bon metteur en scène. C'est Public Enemy avec James Cagney. Il nous fait également plus tard en 35 Call of the Wild, l'appel de la forêt. Il fait Star is Born en 37, Oxbow Incident en 43, Westward the Woman, c'est-à-dire Convoi de femmes, ça c'est un western en 51. Il a fait également L'Escadrille Lafayette, donc tiré de son histoire à lui en 58. Men with Wings en 38 également, encore un film d'aviation. Bref, c'est un bon metteur en scène. Et là, il s'agit de La Ville abandonnée, donc sur TCM, lundi à 22h40. Sur CNFX également, lundi, Les Rats de Manhattan de Bruno Mattei en 84. Génial.
De l'italiano.
Post-apo. Avec Alex McBride qui ressemble. Mais alors furieusement à un certain Chuck Norris. Non mais vraiment quoi.
À l'époque on copiait autant qu'on pouvait. Hein.
Avec Joanna Ryan et Richard Raymond. Il y a toujours des films à mardi sur France 2. Alors c'est pas mal. Il nous propose Training Days à 22h50. Un polar bien sympa de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger et surtout une bande son impeccable. Sur RTL 9 mardi, un sale temps pour un flic. Justement on en parlait. L'Andrew Davis avec Chuck Norris, Henry Silva, Mike Genovese et Bert Remsen. Mais qui est pas mal, hein, franchement, il est pas mal, quoi. Sur Paris Première également, mardi, soirée Clouseau, hein, c'est la semaine Clouseau, dis donc, avec mardi à 20h35, Le Corbeau, celui avec Pierre Frenet, Pierre Larquet, Ginette Leclerc, et suivi de, encore une fois, Quai des Orfèvres à 22h15, donc Clouseau de 47. Le ciné-cinéma classique vous propose également Mardi, le convoi maudit de Roy Rowland avec Joel McCrey, Barry Sullivan, Ramon Navarro et James Whitmore. Ou sur TCM, alors celui-là, il vaut le coup. Moi, je l'ai vu en 3D, mais tu peux le regarder en 2D également. C'est à 20h40, l'étrange créature du Lagon Noir de Jack Arnold en 54 avec
ouais,
Richard
Carlson et
Jolly Adams.
C'est la version noir et blanc, c'est pas la version avec les deux lunettes de couleur.
Non, 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 c'est la version de... on a sur Polar à 21h Matt Helm traqué d'Henry Levin en 67 avec Dean Martin, Sentaberger.
C'est le troisième celui-là.
Non, c'est le deuxième celui-là. C'est dans le troisième qu'il y a Chuck Norris. Celui filmé en 68, c'est-à-dire l'année suivante, quoi. Le premier date de 66. Les derniers, Henry Levin a fait les deux premiers, Carlson a fait les autres. FX, toujours mardi à 21h, Undead de Peter et Michael Spiering avec Felicity Mason et Rob Jenkins, et sur la chaîne Action Devilman de Hiroyuki Nazu avec Isato Izaki et Ayana Sakai.
Adapté d'une bande dessinée et d'un manga qui est assez violent du début des années 70, et ils sont remontés dans la surenchère, ils sont allés encore plus bourrins et violents. Parce que c'est un anti-héros, hein. C'est un héros qui arrive sur Terre.
Ça caille.
Voilà.
Il fait froid. Mercredi, sur Sci-Fi à 20h45, Rollerball de McTiernan. Ouais, d'accord. Ou alors.
Lequel c'est, ah, c'est l'original ou
non,
non, c'est
non,
le remake.
Pas le Jewison, le McTiernan.
Avec Jean
Reno. Avec Jean Reno et LL Cool J.
Non, pas bon.
Ou alors sur Disney Cinemagic, mercredi 20h30, Mary Poppins de Robert Stevenson. Ouais. Ou sur la chaîne Action également, à 20h40, La Bête de Guerre de Kevin Reynolds, pas mal, avec Jason Patrick, Steven Bauer et George Junza, mais bien quoi, quand même, bien hein, franchement quoi. Jeudi sur Arte à 20h35, Tabou de Nagisa Oshima avec Ryuhei Matsuda, Takeshi Kitano, Uno Kanda. Nagisa Oshima qui a toujours eu plus ou moins le même thème dans sa cinématographie, dans ses films, en 60, Conte cruel de la jeunesse, en 66, L'obsédé en plein jour, en 67, Été japonais, Double suicide, en 69, Shonen, qui est traduit par Le petit garçon, ou en 71, La cérémonie, en 76, bien sûr, Aino Corrida, L'empire des sens, et en 78, Aino Borei, L'Empire de la Passion. Et là, dans Tabou, bon, c'est pas mal. Vous avez fait également Max, mon amour. Tu sais, cette histoire avec une nana qui Charlotte Rampling qui devient amoureuse d'un singe. Tu n'avais pas vu ce film dans les années 80 également de Oshima, qui était pas mal, qui était sympathique.
Oshima, non, celui-là, non, celui-là, il me dit rien. Tu
non,
vois
non. Je crois que c'est d'Oshima, hein, de Max, mon amour. Tu vérifieras, quoi. Donc. Et là, ben, on vous propose donc un Tabou qui est pas dégueulasse du tout. Donc, de Nagisa Oshima, c'est un de ses derniers films en 99. Jeudi, toujours sur NT1 à 20h35, Cyclone de Harris Dohn en 99 avec Luc Perry et Martin Sheen qui vont sauver les États-Unis comme d'habitude. Et sur Sci-Fi à 20h45, Dragon Hunter de Steve Chimek avec Kelly Stable et Brad Johnson. Ou alors sur TCM, toujours vendredi à 20h40, Airport de George Seaton avec Brut Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg et Jacqueline Bisset. Ainsi que le épidémique de Lars von Trier sur CineFX jeudi prochain à partir de 21h avec entre autres Lars von Trier, Udo Kier. On termine avec vendredi sur RTL 9 à 15h30, L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann avec Gary Cooper et Julie Lockdown, et sur NT1 20h35, The Detonator de Pucci Leong en 2006 avec Wesley Snipes, Sylvia Colloca et Tim Dutton. On a également vendredi prochain sur AB1 20h40, L.A. County 187, Brigade criminelle de David Anspaugh avec Miguel Ferrer et Aki Aleong. Ou alors sur Ciné Cinéma Premier à 21h, La Nuit nous appartient de James Gray en 2007 avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Robert Duvall entre autres. Suivi de magnifique 23 à 23h, Hey Mec, elle est où ma caisse de Danny Liner avec Ashton Kutcher, Sean William Scott et Jennifer Garner. Sur TCM vendredi prochain, nous avons également à 20h40 Bullet de Peter Yates. Suivi à 22h30 de l'excellent documentaire qui s'appelle L'âge d'or de la musique de film, un documentaire très récent avec des interviews de Quincy Jones, de Lalo Schifrin, de John Barry et de Michel Legrand, documentaire de Thierry Jousse et Nicolas Saada. Sur la chaîne Action vendredi prochain, on a Une poignée de plomb de Don Siegel en western de 69 avec Richard Widmark, Lina Horne et Carol O'Connor à 21h, et on termine par le péplum traditionnel de Cinéfix du vendredi à 21h. Hercule contre Moloch, j'allais dire Hercule contre Poirot, mais je me suis retenu. Hercule contre Moloch de Giorgio Ferroni en 63 avec Gordon Scott, Alessandra Panaro et Rosalba Neri.
Je peux te dire que là, faire le générique en étant tout seul, ça va être un petit peu dur puisqu'on n'a pas fait les résumés et tout ça. Si vous nous écoutez en direct sur FMR 89.1 MHz ou sur FMR en streaming, si vous avez manqué le moindre détail, vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission, mais aussi tous les détails qu'on vous a donnés, c'est-à-dire par exemple les sites web et tout le reste, vous pouvez les retrouver les chroniques écrites. Par exemple, cette semaine, nous avons mis en ligne, outre le lien vers Sandaway, l'éditeur de bande dessinée qu'on a eu en interview tout à l'heure, la chronique de L'Honneur des Tsarums, un remontage de la série Galactica pour avec la musique des Beastie Boys Sabotage, absolument monstrueux, une histoire d'amour et plein de chroniques écrites. Thomas est en retard pour une fois, c'est pas moi qui lague le plus. Bref, tout cela, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Vous y retrouvez les liens, vous laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Barbe Bleue et le Roi Invisible. Et si ce samedi vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas. Cet après-midi, les rendez-vous BD de l'N7, c'est rue d'Aurillac avec 8 auteurs de bande dessinée. Ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et de suite, c'est du sport.